nous aujourd'hui. Dans ces sept miracles, on en a déjà étudié cinq, on arrive au sixième ce soir et on fera le septième dimanche prochain. Tous sont en rapport à la foi. À la fin de son évangile, l'apôtre Jean pouvait dire « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est clair. Des fois, on est là en train de lire un livre, une épître ou un évangile. On dit « Bon, on essaye de discerner le sens, mais là, c'est même pas la peine. » Jean nous dit directement « C'est écrit dans un but bien précis, afin que vous ayez la foi, afin que vous croyiez. » Que Jésus est le Messie d'Israël, le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en son nom, vous ayez la vie, pas seulement la vie éternelle à venir, mais la vie d'ores et déjà, dès maintenant, la vie de Dieu en vous. Souvenez-vous, l'évangile de Jean a été écrit bien après les trois premiers, et il s'adresse davantage à des chrétiens qu'à des inconvertis. Et il est là pour leur dire, attention, ne manquez pas la richesse de la vie de Dieu. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, et qu'en croyant, vous ayez la vie. Dans ce même évangile, Jésus avait pu dire lui-même, « Je donne ma vie afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Et la question qu'on peut se poser, franchement, ce soir, c'est de dire, « Mais est-ce que la vie que Christ m'a donnée, je l'ai en abondance ? » Est-ce qu'il n'y aurait pas encore un peu de place pour la vie de Dieu ? Ces choses sont écrites afin que par la foi, nous obtenions la vie qu'il veut nous donner. Ces choses sont écrites afin que vous croyiez et en croyant, vous ayez la vie. Et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir, pour que notre foi augmente. On a vu déjà cinq leçons. La première, au travers du miracle des noces de Cana, c'était qu'il fallait placer sa foi dans la parole de Christ, au commencement et la parole. Et sans la parole, il ne peut pas y avoir de foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est la foi qui va déclencher le processus du miracle. Mais cette foi, elle ne peut venir que si elle est basée sur la parole. La deuxième leçon qu'on a vue concernant la guérison du fils de l'officier du roi, qui était à Capernaum et qui est monté jusqu'à Cana pour la guérison de son fils, c'est que la foi dans la parole de Christ, elle implique une réaction. On ne peut pas dire « j'ai la foi » sans rien faire. On ne peut pas rester assis à sa place en disant « j'ai la foi ». Non, si j'ai la foi, ça se voit. L'apôtre Jacques lui-même n'y va pas par quatre chemins quand il dit « tu dis avoir la foi, mais tu montres rien, c'est que tu n'as pas la foi ». Insensé. Tu es un insensé. Produis donc les œuvres de la foi. La foi, elle nous amène à produire des œuvres. Si je crois, eh bien ma foi va m'amener à agir, à parler, à manifester ma foi dans une réaction. La leçon 3 qu'on a vue, c'est en ce qui concerne la guérison de cet homme à la piscine de Bethesda, la maison de la miséricorde, c'est que la foi implique une obéissance à toute la parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. C'est pas seulement lève-toi, mais c'est aussi prends ton lit, même si c'est le jour du sabbat et que ça risque de poser des problèmes, et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. La foi implique que si je veux ce soir grandir dans la foi, ça veut dire que je suis prêt à obéir à toute sa parole. Pas seulement à ce qui m'intéresse en disant « Seigneur, ce soir, j'ai besoin de foi parce que j'ai tel problème, parce que j'ai telle difficulté, parce que j'ai besoin de tel miracle dans ma vie, mais Seigneur, j'ai besoin que de ça et je veux pas autre chose. » Non, il faut être honnête devant Dieu. En disant « Seigneur, j'ai besoin de foi et je veux obéir à toute ta parole. » La quatrième leçon qu'on a vue concernant, au travers de ce miracle de la multiplication des pains, c'était que la foi, elle est dans le nom de Jésus qui règne au-dessus de toute situation. Il pourvoit à tous les besoins. Et même quand il y a une foule de 5000 hommes, il est là, il règne, il maîtrise la situation. Les disciples ne maîtrisaient rien, surtout quand il fallait commencer à compter combien ça pouvait coûter pour nourrir toute cette foule. Mais Jésus, souverain, règne au-dessus de toute situation. La cinquième leçon, quand Jésus marche sur l'eau, on a vu que là, la foi implique la foi dans la divinité de Jésus. Croire que Jésus est Dieu, je suis. N'ayez pas peur, c'est moi, je suis. Et on ne peut pas placer la foi dans le petit Jésus. On ne peut pas placer la foi dans ce petit Jésus qui est dans une crèche dans les bras de Marie. Notre foi, elle est dans Jésus, Fils de Dieu, celui qui règne dans les cieux, celui qui a accepté de quitter son ciel de gloire pour un temps, se faire inférieur aux anges, afin de venir sur la terre prendre notre condition, nous ouvrir la voie, le chemin, être le premier-né d'entre les frères, afin de remonter au ciel, et que là où il va, il nous prépare une place. Croire en Jésus, mettre la foi dans le nom de Jésus, c'est mettre la foi dans un Seigneur, un Sauveur, qui vient d'en haut, qui est divin, qui est Dieu. Jean commence dès le début, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et je ne peux pas avoir de foi si je ne crois pas que Jésus est Fils de Dieu, qu'il est Dieu lui-même, qu'il est celui qui règne au-dessus de toute situation, il est Dieu lui-même. Le sixième miracle que l'on va considérer ce soir, c'est la guérison d'un aveugle. Eh bien, au travers de ce miracle, vous savez, Jean est très pédagogique, hein, c'est un mot que j'utilisais souvent, il y a une pédagogie. Eh bien, c'est quand même un petit peu comme à l'école, de temps en temps, il faut faire le point, faire une révision, et après passer à l'étape suivante. Eh bien, ce miracle, c'est un peu la synthèse faut pas que je me trompe dans les calculs, on en est à 6, ça fait des 5 derniers. Et là, on va voir que dans ce miracle, il y a les 5 précédents. Les 5 leçons sont là, et Jean vient là comme insister afin de confirmer toutes les étapes, tous les éléments de la foi qu'on a pu considérer dans ces 5 derniers miracles, avant d'arriver, et ce sera pour dimanche prochain, à la résurrection de Lazare. Et la résurrection de Lazare, c'est évidemment cette proclamation de Jésus qui dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et non seulement il le proclame, mais il va le prouver quelque temps plus tard. Et on considérera quelle est l'importance de la résurrection de Jésus. Vous savez, si Jésus était mort sur la croix et qu'il n'avait pas eu de résurrection, sa mort sur la croix ne veut rien dire. La mort sur la croix de Jésus a toute sa signification à cause de la résurrection. Ben là, j'anticipe pour dimanche prochain, mais si ça vous intéresse, ce sera dimanche prochain et on verra que Jésus a été proclamé Fils de Dieu à la résurrection. Et c'est depuis la résurrection qu'il est le Fils de Dieu. Je ferme la parenthèse, ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche. Maintenant, on revient à Jean chapitre 9, verset 1er, on y va. Vous avez votre Bible, on lit ensemble Jean chapitre 9, verset 1er. Alors là, on a tout le chapitre, hein. Alors on y va tranquillement. Jésus vit en passant un homme aveugle, de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait, « C'est moi !» Il lui disait donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé et lave-toi » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et lui dire, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Ils lui dirent, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui ?» Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle ?» Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qu'il conserve. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et lui dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. On lira la suite tout à l'heure. Voilà un homme qui est né aveugle. Et ça commence en disant, Jésus vit. Il a vu cet homme. Il a remarqué cet homme. Et les disciples ont vu que Jésus a vu. Et donc, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils essayent de considérer le cas de cet homme qui est né aveugle. Et les disciples, tout d'un coup, vont être curieux et dire, ben, c'est peut-être l'occasion de poser enfin la question à Jésus pour savoir enfin, pour comprendre enfin pourquoi. Et il faut reconnaître qu'on est bien souvent comme ses disciples, avec toutes sortes de pourquoi. Pourquoi cet homme est né aveugle? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Est-ce que vous avez jamais posé la question à Dieu, pourquoi? Est-ce que vous avez jamais posé la question à un frère, à une sœur, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un d'aveugle? Pourquoi est-ce qu'il y a la maladie? Pourquoi est-ce qu'il y a cette situation dramatique? Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi? Pourquoi est-ce que je suis malade? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être comme ça? Et les disciples vont dire à Jésus, mais pourquoi est-ce qu'il est malade celui-là? Pourquoi est-ce qu'il est né aveugle? Et on voit au travers de leurs questions leur réponse. Ils ont déjà leur explication. Leur explication, c'est clair. Cet homme, c'est à cause du péché qu'il est né aveugle. Ça, c'est leur théologie. C'est leur doctrine. Si quelqu'un est malade, c'est parce qu'il a péché. Si quelqu'un est aveugle, c'est parce qu'il y a le péché. Mais le problème, c'est qu'il est né comme ça. Alors la question, c'est de savoir, mais quand est-ce qu'il a péché? Puisque si il est aveugle à cause du péché, mais il a péché quand? Puisqu'il est né comme ça. Alors là, ça devient plus compliqué et ils sont un peu embrouillés dans leur esprit et ils vont jusqu'à poser la question à Jésus, mais est-ce qu'il est, il a péché avant? Avant de naître? Et c'est pour ça qu'il est né aveugle? Il aurait péché quand? Dans le sein de sa mère, il aurait donné un peu trop de coups de pied? Alors, ils vont dire, mais est-ce que c'est à cause de ses parents? Peut-être que la malédiction a été sur ce bébé parce que ses parents ont péché. Est-ce que ça marche comme ça avec Dieu? Est-ce qu'on n'a pas parlé de la maison de la miséricorde il y a 15 jours? Est-ce que Dieu serait capable de punir un bébé à cause du péché de ses parents? Oh oui, il y a la conséquence du péché des parents et c'est vrai que si une maman est là en train de se droguer ou de boire pendant la grossesse, il y aura des répercussions sur l'enfant. Mais c'est pas Dieu qui va amener une malédiction. C'est une conséquence du péché. Mais là, c'est pas la même chose. Pour ses disciples, c'était clair. Cet homme est dans cet état à cause du péché. D'ailleurs, on a fini ce passage avec cette même réflexion des pharisiens. Les pharisiens ont dit à cet homme, tu es né tout entier dans le péché. Tu es né aveugle, c'est-à-dire tout entier dans le péché. Alors on pose la question à Jésus. Et franchement, est-ce que ça vous intéresse la réponse? Est-ce qu'on l'a lu ensemble? Jésus ne va pas vraiment répondre. Jésus ne va pas dire, oui, attendez, je vais vous expliquer pourquoi. Jésus va dire, le pourquoi, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant. C'est afin que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Le pourquoi, ce n'est pas important. Dans une autre circonstance, ça se passe dans l'évangile de Luc, au chapitre 13. Il est dit que quelques personnes sont venues raconter à Jésus comment des Galiléens ont eu le sang mêlé à celui de leur sacrifice, et c'est Pilate qui a fait ça. Alors comprenez que pour les Juifs, le sang c'est important, et ça a une signification importante. Le sang c'est la vie. Et voilà que ces hommes ont été condamnés à mort par Pilate, le Romain, condamnés à mort, et non seulement ils ont été condamnés à mort, mais on a mélangé le sang avec le sang des animaux. Et pour les Juifs là, mais c'est une abomination. Et ils vont poser la question à Jésus en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une telle abomination leur est arrivée? Et Jésus va répondre, pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Jésus dit, vous pensez que si ils ont souffert de la sorte, c'est parce qu'ils étaient plus pécheurs ou plus coupables. Et Jésus dit, non, c'est pas vrai. Mais vous, faites attention à vous-même. Le plus important dans maintenant, c'est que vous vous repentiez afin de ne pas mourir. Mourir comme eux et finir dans l'éternité du mauvais côté. C'est ça le plus important. Et dans le même contexte, Jésus continue en disant, souvenez-vous de ce qui s'est passé là, ces 18 personnes qui sont mortes par l'écrasement d'une tour. Une tour s'est écrasée, ça n'a rien à voir avec la tour de New York, ça se passe à Jérusalem, mais enfin, il y avait un pourquoi là aussi. Une tour, la tour qui est au réservoir de Siloé, justement. On va parler du réservoir de Siloé. Cette tour s'est effondrée, et dans l'effondrement de cette tour, 18 personnes sont mortes. Et pensez donc, c'était un endroit où tout le monde allait. On allait chercher de l'eau, on allait puiser de l'eau au réservoir de Siloé. Et certainement que certaines personnes se sont dit, mais moi j'y étais quelques minutes avant. Un peu plus, la pierre me tombait dessus. Un peu plus, j'étais parmi les victimes de cet éboulement. Mais alors après, ils se disent, mais pourquoi c'est ces 18-là qui sont morts et pas les autres? Et alors tout de suite, parce qu'ils ont cette façon de penser, si ceux-là sont morts, c'est parce que Dieu les a punis. Si la tour leur est tombée dessus, c'est un châtiment de Dieu. Et ils sont morts à cause d'eux, parce que comme ils posent un pourquoi, il faut bien amener un parce que. Quand on cherche le pourquoi, on a besoin d'une réponse. Et Jésus n'amène pas de réponse. Il répond tout simplement non. Si ces 18-là sont morts, ce n'est pas à cause de leur péché dans le sens... C'est pas parce qu'ils sont plus pécheurs que les autres que ça a été ces 18-là et pas le 19e ou le 20e ou celui qui était là avant. Si ces 18, on va le lire ensemble, ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Jésus se contente de répondre avec un mot de trois lettres, non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas qu'ils aient été plus coupables, plus pécheurs que les autres. Mais, et Jésus veut ramener l'attention à quelque chose de plus important, en disant, mais qu'est-ce que ça va faire de savoir ce qui se passe et de comprendre le pourquoi, alors que vous-même, vous êtes perdus. Le plus important, c'est que vous vous repentiez et que vous soyez sauvés. À quoi ça sert de comprendre les pourquoi et les mystères du royaume de Dieu et de ce qui se passe sur la terre quand notre propre vie a besoin d'être mise en règle? À quoi ça sert de comprendre pourquoi il se passe ça pour lui, ça pour elle, alors que pour nous on comprend même pas ce qui se passe dans notre vie? Et Jésus dit, ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qui s'est passé pour ces 18 et de chercher une réponse alors que vous-même, vous avez besoin de vous repentir parce que un jour ou l'autre, vous allez mourir. Et quand Jésus dit « vous mourrez tous pareillement », ça ne veut pas dire que vous allez vous aussi être sous un éboulement. Mais ça va arriver d'une manière soudaine. Ça va vous surprendre. Quand ces 18 sont allés chercher de l'eau au réservoir de Siloé, ils ne s'attendaient pas à mourir là. Ils sont allés chercher de l'eau pour aller faire et continuer leur vie. Et là a été la fin de leur vie. Et Jésus dit, vous aussi faites attention parce qu'un jour ça va arriver. Et vous allez peut-être pas vous y attendre. Mais repentez-vous avant ce jour. Mettez votre vie en règle avant ce jour afin que vous soyez sauvés et que vous ne mouriez pas comme eux, non prêts, être là surpris. Regardez les choses différemment. Et c'est à ça que j'aimerais arriver ce soir, qu'on puisse dire de regarder les choses différemment et d'arrêter avec les pourquoi. Et d'arrêter d'essayer de chercher des réponses. Et de venir devant Dieu comme si on avait quelque chose à dire à Dieu en disant, Seigneur, tu fais n'importe quoi. Ça va pas cette affaire, j'y comprends rien. Mais c'est normal qu'on comprenne rien. On est bien petit par rapport à Dieu. On est bien insignifiant. Est-ce que c'est le vase de terre qui va dire au potier, « Hey, t'as vu comment tu m'as fait ?» Est-ce que c'est la créature qui va dire au créateur, « Écoute, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas là, c'est pas possible. » Non. Mais nous sommes par contre appelés, et c'est là le message de Jésus. Cet homme est né aveugle. Et vous voulez savoir pourquoi ? Eh bien, je ne vais pas vous dire pourquoi. Si ce n'est que la réponse que je vais vous donner, c'est que afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Et de la même manière, aujourd'hui, on devrait apprendre. Et si on apprend au moins qu'une chose ce soir, ben que ce soit ça, qu'on apprenne à regarder les choses différemment. Et à chercher les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées. Je ne sais pas si je me risque de prendre des risques. Oula. C'est peut-être pas populaire, mais bon, je prends le risque quand même. Je vais parler de la guerre en Irak. Je n'ai pas fait de politique, mais juste une parenthèse. Pourquoi, Seigneur ? Est-ce qu'il n'y en a pas qui vont se poser la question en disant « Pourquoi ?» Et il y en a même qui vont dire « Comment ça, George Bush, chrétien ? C'est pas possible avec ce qui se passe. » Vous savez, quand on écoute les informations, et c'est surprenant parce que on a écouté Radio-Canada ici, c'est bien, on entend les informations Radio-Canada, puis après on va sur Internet, et on écoute les informations en France. Et ils disent le contraire. Mais le contraire! Radio-Canada dit, les Américains sont rentrés sans résistance en Irak, et on écoute les informations en France, le journal télévisé en France, on peut l'avoir sur Internet, et ils disent, il y a eu beaucoup de résistance et tout. Alors, on a des informations contraires. Et moi, j'en arrive à dire, parce qu'on entend, c'est pas forcément fiable. Mais maintenant, notre regard concernant ces choses doit pas être dans ce pourquoi, comme ses disciples. Pourquoi la guerre? Pourquoi ceci? Mais chercher l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu a été surpris par ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que Dieu dit, hey, la mince, il fallait pas attaquer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont pas écouté? Pourquoi est-ce qu'ils font, je contrôle plus rien, c'est pas ce que j'avais prévu? Est-ce que quand on considère la fin des temps, est-ce qu'il n'est pas question de guerre dans la fin des temps? Est-ce que ce serait pas ce qui est en train de se passer? Justement, la volonté de Dieu, je ne dis pas que la volonté de Dieu, c'est que des innocents soient tués, non. Je ne dis pas que la volonté de Dieu, c'est de faire du mal et du tort. Mais il y a des choses qui se mettent en place concernant l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Et Dieu contrôle, et Dieu est derrière. Mais on ferait mieux de regarder les choses différemment, voir la gloire de Dieu qui va se manifester même au travers de ça. Est-ce que vous savez qu'il n'y a jamais eu autant de conversions parmi les Marines américains depuis quelques jours? Les aumôniers et des aumôniers évangéliques baptisent et il y a déjà la guerre du Golfe, ça s'était produit. Et là, ça se produit encore. Est-ce que vous ne croyez pas que dans cette situation, on peut voir la gloire de Dieu et on peut voir de grandes choses? On ne va pas polémiquer sur savoir le pourquoi, le comment. De toute façon, c'est des choses que moi, je ne peux rien faire. Je ne contrôle pas, mais je veux prier afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que les médias veulent me dire, mais que le plan de Dieu s'accomplisse, et que là, la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que dans Romains 8, 28, l'apôtre Paul ne dit pas que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein? Ça ne veut pas dire que tout est bien. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire, si vous arrive quelque chose de tragique, c'est bien. Non. Il dit, même dans ces moments-là, ça va coopérer à quelque chose de bon. Il va en ressortir du bon. Même si la situation est mauvaise, même si la situation est tragique, même s'il y a quelque chose de mal, Dieu va en faire du bien. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Est-ce que vous avez la même interprétation que les disciples de Jésus concernant l'histoire de Joseph? En disant, oui, de toute façon, Joseph, s'il était, si on l'a mis dans une citerne, c'est parce qu'il l'a bien mérité. S'il était moins orgueilleux, s'il n'avait pas comme ça excité la jalousie de ses frères, on l'aurait pas mis là. Et puis bon, avec Potiphar et tout, là, il y a certainement quelque chose derrière. Non, c'est pas possible. Dieu aurait pas permis que Joseph soit... C'est qu'il était orgueilleux et Dieu l'a cassé, l'a brisé jusqu'à ce qu'il devienne humble comme un agneau. Vous croyez que c'est ça? Malheureusement, des fois, on peut entendre ce genre de réflexion. Pourquoi? Parce que on a la même mentalité que ses disciples en disant tout ce qui se passe a certainement une raison et ça doit être à cause d'un péché quelque part, à cause de son péché. Non, non. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Et ce qui s'est produit dans la vie de Joseph, c'est pas parce que Joseph l'a mérité, c'est pas parce que Dieu a voulu donner une leçon à Joseph afin qu'il apprenne. Certainement qu'il a appris au travers de ce qui s'est passé. Mais si ces choses se sont déroulées ainsi, c'est afin que la volonté de Dieu soit manifestée, que la gloire de Dieu soit manifestée. Regardez ce que Joseph va dire à la fin de sa vie, alors que ses frères sont revenus. Il va dire, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Ses frères auraient dû mourir de faim dans la famine qui arrive, 7 ans de famine. Mais Dieu a transformé le mal que les frères avaient projeté de le lui faire et l'a transformé en bien. Et est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vous êtes, Dieu peut transformer en bien et qu'il en ressorte quelque chose de bien? Même dans une guerre, il peut ressortir quelque chose de bien. Même dans une situation peut-être plus personnelle, Dieu veut en faire ressortir quelque chose de bien. Mais ça a besoin pour nous eh bien, de nous contenter d'une réponse en 3 lettres, non. Non, non, c'est pas ça, la réponse. Et qu'importe, toi, contente-toi de chercher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Vous savez, à la fin de l'évangile de Jean, Jésus va parler à Pierre, et va lui dire, Pierre, tu sais, estime-toi heureux, tu vas mourir martyr. Tu vas mourir martyr pour ma gloire. Oui, oui, c'est ça. Parce que Jean précise bien, quand il dit, bon, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, quand tu seras vieux, tu seras... Ça, Jean dit bien, Jésus disait cela pour indiquer de quelle manière Pierre glorifierait Jésus dans sa mort. Et certainement qu'à l'époque où Jean a écrit ça, Pierre était déjà mort. Et Jean le sait. Et quand il écrit cet évangile, il dit, voilà, Jésus est en train d'indiquer à Pierre qu'il va mourir martyr. Pierre se réjouit, comme vous l'auriez fait. Seigneur, merci, quel privilège de pouvoir mourir martyr. Mais enfin, il voit le petit jeune, Jean. Lui, Jésus l'aime bien. Peut-être un peu trop, hein, quand même. Et alors, il va poser la question à Jésus. Et lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que c'est pas la question qu'on aimerait des fois poser en disant, mais Seigneur, regarde, moi je vais mourir martyr. Mais lui, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus va dire, que t'importe, toi, suis-moi. Et même si je veux qu'il ne meure pas et qu'il vive éternellement, ce n'est pas ton problème. Et du coup, il y en a qui ont compris, parce que Jésus avait dit ça, que Jean ne mourrait jamais. Ce n'était pas ce que Jésus avait dit. Mais Jésus a dit à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître. Donc quand on passe par des moments difficiles, on est là en train de poser des questions. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce drame? Pourquoi cet homme est né aveugle? Et quand on est concerné, on se dit, pourquoi moi? Et des fois, on pourrait être tenté, et c'est humain, de dire, mais moi, j'ai tous les problèmes, moi, il m'arrive ça, et le frère un tel, tout va bien pour lui. Et Jean, il n'a pas de problème, moi, Pierre, je vais mourir martyr, pourquoi ça tombe sur moi? Et pourquoi lui, non? Non, Jésus dit, que t'importe, ça te regarde pas, ça te concerne pas, toi, suis-moi. Et on n'a pas à comparer notre vie avec celle des autres. On n'a pas à comparer nos tribulations avec celles des autres en disant « c'est pas juste ». Est-ce que Dieu serait pas juste? Est-ce qu'on oserait dire à Dieu « c'est pas juste » Est-ce qu'on oserait dire à Dieu « Dieu, il y a un problème là ». parce que moi j'ai tous les misères du monde et la sœur untel, tout va bien. Qu'est-ce que vous en savez? Et quand bien même tout irait bien pour elle, tant mieux pour elle, réjouissez-vous avec elle. S'il y a quelqu'un qui n'a aucun problème, tant mieux. Tant mieux. Toi, suis-moi. Qu'importe si le chemin de chacun est différent. Peut-être que quelqu'un aura un chemin plus dur. Pensez à Job, on ne va pas tous passer par le même chemin que Job. Tant mieux, hein. Moi, j'espère pas perdre ma femme et mes enfants et me retrouver là. On a tous un chemin différent. Mais Dieu est souverain. Et au travers de ce chemin, il veut en ressortir quelque chose de bon. Les disciples posent la question à Jésus, « Seigneur, pourquoi cet homme est né comme ça? Est-ce que parce que lui, il a péché ou ses parents ont péché ?» Et Jésus va répondre, et c'est la suite, hein. Jésus répond, on est toujours dans Jean chapitre 9 et on est au verset 4, « Il nous faut travailler, ou il faut que je travaille tant qu'il fait jour, aux œuvres de celui qu'il m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et là encore, tout à l'heure je citais Luc quand Jésus disait « Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Là encore, Jésus veut nous ramener à la chose la plus importante. En disant « Vous êtes là en train de vous poser la question pour savoir pourquoi cet homme est né aveugle. » Il y a du travail. Parce qu'il viendra un temps où on ne pourra plus travailler. Il viendra un temps où il va venir et ce sera trop tard. Il est temps de travailler. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, au lieu de nous poser un tas de questions, au lieu d'essayer de comprendre un tas de choses, au ciel, rassurez-vous, on comprendra tout. Et on aura accès à toute l'information. Et on saura tout. Et on aura l'éternité pour poser toutes les questions et le Seigneur pourra nous répondre. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais maintenant, au lieu de chercher des réponses, il est temps de travailler. Parce que pendant qu'on pose des questions, on ne travaille pas. Pendant qu'on est là en train de nous soucier de tel et tel pourquoi, on ne travaille pas. Regardez ce qui s'est passé. Je reprends un récit de l'évangile de Marc. Ça se passe lors de la montagne de la Transfiguration. Jésus, Pierre, Jacques et Jean sont tout en haut sur la montagne. Il y a un homme dont le fils est possédé. Il amène son enfant vers Jésus. En disant, je cherche Jésus afin qu'il délivre mon enfant. Ah ben, tu tombes mal, Jésus est là-haut sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean. Oui, mais il y a ses disciples. Ah ben oui. Attendez, ses disciples, Jésus les avait envoyés deux par deux avec le pouvoir de chasser les démons. Oui ou non? Ses disciples avaient une autorité sur les esprits impurs. Voilà que cet homme, donc, vient auprès des disciples. Jésus est en train de redescendre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une foule. Et on le lit ensemble dans Marc 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise. Elle en accourut pour saluer, leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Les disciples sont là en train de discuter. Et Jésus leur fait le reproche. « Mais qu'est-ce que vous faites en train de discuter? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire que de discuter avec les scribes ?» De venir là sur des petites pointes de doctrine, de venir pinailler, de venir chercher ce qui va pas, et là vous discutez, vous bavardez, mais pendant ce temps, regardez cet homme, il est venu avec un besoin, et vous avez rien fait pour lui. Et cet homme est venu avec foi. Il est venu parce qu'il savait que Jésus pouvait délivrer son fils. Mais qu'est-ce que cet homme va dire à Jésus? Seigneur, si tu peux! Vous voyez, ce que je veux montrer par là, c'est que quand cet homme est venu, il était sûr que Jésus pouvait. Mais maintenant qu'il a entendu les disciples discuter avec les scribes, sa foi, au lieu d'augmenter, elle a régressé. Et j'espère qu'on ne va pas ressembler à ces disciples-là, qui vont décourager les gens qui viennent dans ce lieu, et au lieu de les encourager dans la foi, les amener à être découragés. En disant, ah, tu sais, tu viens, mais bon, moi... Ça fait déjà quelque temps que je prie, je n'ai pas été guéri, alors tu sais, toi. Je ne sais pas si ça va marcher pour toi. Puis bon, tu sais, le frère untel, je le connais, hein, mais si tu savais tout ce qu'il a fait l'année dernière. Vous pouvez avoir des personnes qui rentrent dans ce lieu avec foi, avec attente. Ils viennent parce qu'ils savent que Jésus est la réponse. Mais si nous, on discute, et on est là avec des pourquoi, avec toutes sortes d'interrogations et des réponses vite faites et mal faites, eh bien, on va plus les décourager dans la foi. Et c'est ce que Jésus va reprocher à ses disciples, vous discutez. Et le Père va se ressaisir en disant, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus va dire, mais tout est possible à celui qui croit. Et à la fin, la conclusion que Jésus va donner à ses disciples, il va leur dire, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Ça c'est dans Marc, sinon il le dit aussi par le jeûne et la prière. Que par la prière. Vous êtes en train de discuter avec les scribes, alors qu'il suffit de prier. Vous passez du temps à discuter, à pinailler, à je ne sais pas discuter de quoi, Jésus leur pose la question, alors qu'il suffit de prier pour que cet enfant soit délivré. Et en ce qui nous concerne, est-ce que cette réflexion de Jésus pourrait s'adresser à nous? Vous discutez, vous voulez comprendre un tas de choses, vous voulez savoir un tas d'affaires, et puis vous ne priez pas, et vous ne travaillez pas, et vous oubliez de faire ce qui est important de faire. La nuit vient où on ne pourra plus travailler. Et Jésus dit, pendant qu'il fait jour, je veux faire la volonté de Dieu, je veux faire les œuvres de Dieu. Cet homme est né comme ça, et la réponse que Jésus va leur donner, que ça leur plaise ou pas, c'est la réponse que Jésus leur donne, c'est afin que l'œuvre de Dieu soit manifestée dans sa vie, et on devrait, nous, regarder tout ce qui nous entoure, et même regarder tous nos pourquoi et nos questions en disant, qu'importe la réponse, mais je veux voir dans cette situation la gloire de Dieu se manifester, la gloire de Dieu se manifeste. La guérison. Cet homme va être guéri. Ça va se passer d'une manière surprenante. Jésus va cracher par terre, va faire de la boue avec sa salive, il va prendre cette boue, l'appliquer sur les yeux de l'aveugle, et va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyer, nous dit Jean, il y a là, il s'est lavé, et il revient voyant. Tout simplement. Jésus va cracher et faire de la boue. Surprenant. C'est la première fois que Jésus fait ça. On n'a pas vu Jésus guérir d'autres aveugles ainsi. Dans d'autres situations, c'était juste une parole, juste un mot, ou alors Jésus a conduit. Enfin là, Jésus va cracher par terre, va faire de la boue, va l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. On est dans quel évangile? On est dans l'évangile de Jean. Et là, on est dans le sixième miracle. Il n'y en a que sept, on est dans le sixième. Et si Jean nous donne tous ces détails, c'est parce qu'au travers de ces choses, il y a un enseignement. Et Jésus va cracher à terre, va faire de la boue, et va mettre de la boue sur les yeux de l'aveugle. Déjà qu'il ne voyait pas, mais avec de la boue sur les yeux, qu'est-ce qu'il va voir? Jésus est en train, quelque part, d'aggraver la situation. Un aveugle, il voit pas, mais maintenant qu'il a de la boue sur les yeux, comment est-ce qu'il va pouvoir voir? Mais quelque part, Jésus est en train de lui montrer qu'il a besoin d'être lavé, d'être purifié. Et au travers de la boue placée sur ses yeux, c'est là comme une prise de conscience qui l'amène à réaliser le besoin d'une purification. Et Jean nous dit, il l'a envoyé vers le réservoir de Siloé, et Jean nous précise, attention, il ne faut pas louper ça, le réservoir de Siloé, ce n'est pas un hasard si Jésus l'envoie là-bas, c'est parce que Siloé, ça veut dire envoyé. Et Jésus est l'envoyé de Dieu. Et c'est en allant vers Jésus que l'on verra, que l'on aura la guérison, le miracle. Dans le psaume 36,9, il est dit, car auprès de toi est la source, Siloé c'est une source, auprès de toi est la source de la vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Jésus venait de dire, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Jésus a dit, pendant que je suis dans le monde. Parce que plus tard, il dira, vous êtes la lumière du monde. Parce que c'est comme s'il nous avait repassé le flambeau, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Mais pendant que Jésus est dans le monde, il est la lumière du monde. Et maintenant, c'est à nous, à être la lumière du monde. Pourquoi? Parce que Jésus vit en nous, cette lumière doit être manifestée, doit être vue. Jésus va faire de la boue. Cette boue va être placée sous les yeux de l'aveugle comme pour empirer sa situation. Mais comme aussi pour l'amener à prendre conscience, à réaliser qu'il a besoin d'être lavé, à prendre conscience de son état. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, de la parole de Dieu en nous, qui nous amène à la repentance, à réaliser que nous avons besoin d'être sauvés, que nous avons besoin d'être lavés, que nous avons besoin d'être purifiés. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution que d'aller vers l'envoyé de Dieu, vers Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre sauveur, il n'y a pas d'autre médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Jésus a fait de la boue, et la boue nous rappelle évidemment ce qui s'est passé au tout début dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait de la boue. Et cette boue, eh bien, cette argile, cet Adam, Adam, ça veut dire littéralement le glaiseux, celui qui est là, celui qui est fait à partir de la boue, eh bien, cette boue-là, il y a eu le souffle de Dieu. Dieu a soufflé, si je pouvais le dire en grec, ça passerait mieux, parce que souffler, insuffler en grec, c'est l'esprit. Théopneusis, c'est l'esprit là, le souffle de Dieu. L'esprit est celui qui est venu donner la vie à cette boue. La même manière, c'est l'esprit de Dieu qui nous amène à la vie, à la nouvelle naissance. Et c'est l'esprit de Dieu qui vient vivifier cette parole. La parole nous amène à réaliser l'état dans lequel on est. L'esprit nous amène à sortir de cet état et à passer de la mort à la vie et à rentrer dans la nouvelle vie, dans cette nouvelle naissance. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que ce sixième miracle, c'était un récapitulatif de tous les autres. Regardons pourquoi. La première leçon, c'était la foi dans la parole de Christ. Cet homme vient d'entendre Jésus dire à ses disciples, « Si cet homme est aveugle, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Oh, il devait être là excité en disant, « Il y a des œuvres de Dieu pour moi. » Il y a quelque chose que Dieu a prévu pour moi et je ne veux pas le manquer. Et il croit dans cette parole qu'il vient juste d'entendre de Jésus, il y a quelque chose de bon pour moi. Il vient d'entendre Jésus dire, je suis la lumière du monde. Et justement, il est aveugle, il est dans les ténèbres, il a besoin de lumière. Il croit dans cette parole, Jésus est la lumière du monde. Sa foi doit impliquer une réaction. Et cet homme va entendre Jésus, va sentir Jésus lui mettre de la boue sur ses yeux et va entendre Jésus lui dire « Va, va ». Ça vous rappelle rien, ce petit mot de deux lettres « va » ? Est-ce qu'on n'a pas vu dans cette guérison du fils de l'officier du roi qui est monté de Capernaum jusqu'à Cana et qui a dit « Viens guérir mon fils !» Et Jésus lui a dit « Va, ton fils vit ». Et cet homme a cru tout simplement et a manifesté sa foi en retournant chez lui. Souvenez-vous aussi de ce centenier romain qui avait un serviteur malade et qui est venu vers Jésus en disant « Seigneur, je ne suis pas digne que tu viens chez moi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. » Eh bien, il a eu un mot, « Va ». Et son serviteur a été guéri. Et Jésus va faire l'éloge de la foi de cet homme en disant « Même en Israël, parce que lui c'est un païen, c'est un romain, même en Israël, j'ai pas trouvé une foi aussi grande. Parce que voilà quelqu'un qui croit qu'un mot suffit pour guérir et pour amener au miracle. Et là, dans cette situation, il dit simplement à cet aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Et cet homme y est allé tout simplement. Il a obéi. Il a cru dans cette parole. Il a pas dit, mais quand même, là, moi, je suis aveugle et voilà qu'en plus on rajoute de la boue sur mes yeux. C'est pas gentil. Non, il obéit simplement à cette parole et il croit qu'il va se passer quelque chose. Va. Et notez bien, comme lors du miracle à la piscine de Bethesda, la maison de la miséricorde, cet homme obéit à toute la parole. Il dit pas, bon, quand même le réservoir de Siloé, c'est loin. Et oui, là on est à peu près à côté du temple, c'est-à-dire tout en haut de Jérusalem. Et le, je n'ai pas fait de plan. Et le réservoir de Siloé, il est tout en bas. Alors, il fallait redescendre tout Jérusalem, et c'est un aveugle qui doit redescendre, retraverser toute la ville de Jérusalem, aller jusqu'au réservoir de Siloé, mais de l'eau, il y en a ailleurs. Il aurait pu demander à un voisin, il aurait pu demander à quelqu'un d'autre un peu d'eau pour se laver les yeux. Non, Jésus a dit au réservoir de Siloé. Alors, même si c'est pénible, même si ça prend du temps, même si pour un aveugle, c'est pas facile de redescendre au réservoir de Siloé, il y va. Et il obéit à la parole, même s'il n'a pas tout compris de la parole. Mais Jésus m'a dit d'aller me laver au réservoir de Siloé, alors j'obéis à cette parole et cette obéissance va amener le miracle. L'homme qu'on appelle Jésus m'a dit de faire de la boue, me l'a appliqué sur les yeux, m'a dit d'aller au réservoir de Siloé et il dira simplement j'y suis allé et c'est comme ça que j'ai retrouvé la vue. La foi dans le nom de Jésus qui règne au-dessus de toute situation. On va lire la suite, on en était au verset 35, on va lire du verset 35 au verset 41. Là, je suis directement à la diapo 26. On reviendra à la 23 tout à l'heure. On est là, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Bon, parce que je vous ai épargné toute l'affaire avec les pharisiens et autres, on n'a pas le temps de tout développer. Et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» Tu l'as vu, lui dit Jésus. « Et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. « Crois-tu au Fils de Dieu ?» La foi dans le nom de Jésus, qui règne, qui est le Fils de Dieu. Voilà qu'il va dire, « Je crois, je crois, je crois. » La foi dans le nom de Jésus. Et le cinquième point, c'était la foi dans la divinité de Jésus. Et là, notez bien dans ce passage, il est dit, « Il l'adora. » Et attention, pour nous, bon, ça passe inaperçu, on met ça, on lit ça vite, on est là à Jérusalem, dans un contexte juif, où là, les 10 commandements étaient pris très au sérieux. Et entre autres, « Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. » Et adorer quelqu'un d'autre que Dieu, c'était de l'idolâtrie. Mais cet homme qui adore Jésus manifeste par là sa foi, « Je crois que tu es Dieu. » Et que là, même dans le temps, parce que ça se passe dans le temps, là, je crois que tu es Dieu, je me prosterne devant toi, reconnaissant que tu es le Je suis, que tu es celui qui vient d'en haut, et que en t'adorant, c'est Dieu que j'adore. C'était pas facile pour un juif. Mais il reconnaît par là que Jésus est réellement le Fils de Dieu, celui qui vient d'en haut, celui qui est Dieu. Et à la conclusion, c'est le verset 39, puis, Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, « Nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste. » Peut-être qu'il y a un point un peu mystérieux, mais j'aimerais pas passer trop de temps là-dessus. On pourrait, mais le temps passe. Jésus leur dit, si, on va prendre le verset 41, le verset 39 avant, numéro 27. Jésus leur dit, je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas, voient. Là, on est d'accord. Ceux qui ne voient pas voient, les aveugles qui retrouvent la vue, c'est clair. Mais maintenant, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Vous comprenez quelque chose? Ceux qui ne voient pas, ils voient. Alléluia. On comprend. Jésus a dit dans cette synagogue de Nazareth, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. D'accord. Maintenant, quoi? Celui qui voit devient aveugle. Et Jésus va leur dire, parce que les pharisiens vont dire, mais alors nous aussi on est aveugles? Est-ce qu'ils comprennent que Jésus est là en train d'apporter un enseignement et qu'il y a quelque chose à prendre au sens figuré? Alors les pharisiens qui étaient là, vont, après avoir entendu ces paroles, vont dire à Jésus, et nous? Alors on est considérés comme aveugles? Et Jésus va leur dire, non, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. On suit? Faut s'accrocher là, faut comprendre, hein. Je vous laisse le temps de reprendre mot après mot. On est aveugle, on retrouve la vue, mais si on voit, on devient aveugle. Mais est-ce qu'on est aveugle? Non. Ah bon? Ils sont pas aveugles. Bon. Ben oui, parce que si vous étiez aveugle, ce serait mieux. Ah bon, pourquoi? Parce que si vous étiez aveugle, vous pourriez être guéri. Mais on peut pas guérir quelqu'un qui voit, puisqu'il voit. On peut pas lui ouvrir les yeux, puisqu'il voit. Et pour nous aider à comprendre, Jésus va dire dans Luc, et puis Luc 5, il dit « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Et ça va peut-être vous surprendre, mais je vais présenter ce verset d'une autre manière, en disant « Jésus n'est pas venu pour tout le monde. » Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu que pour les pécheurs, pas pour les justes. C'est ce qui est marqué. Il est dit, je ne suis pas venu appeler des justes. Je n'appelle pas les justes. J'appelle que les pécheurs. C'est ce que Jésus a dit. Non? Il dit, c'est pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin d'un médecin. Moi, je suis, il se présente là comme étant le bon médecin. Moi, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Bon, maintenant, l'apôtre Paul nous dit combien il y a de justes. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais Jésus dit, je suis pas venu pour les justes. Et là, c'est ce qui se passe. En disant, tant que vous diriez, que vous allez dire que vous avez les yeux ouverts, je ne pourrai jamais vous ouvrir les yeux. Parce que vous allez dire, j'ai pas besoin de miracle, j'ai pas besoin de Jésus, je vois. Mais quand vous allez prendre conscience, comme avec cette boue qui sera sur vos yeux, quand vous allez prendre conscience que vous avez besoin d'un miracle, que vous avez besoin qu'on vous ouvre les yeux, alors là, vous verrez. Et Jésus dit, c'est pour ça, afin que ceux qui voient ne voient plus. Et cette parole amène comme des ténèbres, c'est-à-dire à réaliser que finalement on n'y voyait rien et qu'on a besoin d'un miracle et que la lumière du monde vienne venir éclairer, vienne venir ouvrir notre cœur. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui se croient sauvés ne peuvent pas être sauvés, mais ceux qui réalisent qu'ils sont perdus et qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Et si ce soir quelqu'un dit, moi j'ai besoin de rien, le Seigneur ne pourra rien pour vous. Mais si vous invoquez son nom en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi et je veux que tu m'ouvres les yeux, alors là, tout devient possible. Juste une petite parenthèse, Jésus parle là du Saint-Esprit et il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et on arrête là. Il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Vous connaissez ce verset? Il va convaincre le monde de péché, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va nous ouvrir les yeux et nous montrer tous les péchés qu'on a faits? Comment est-ce qu'on peut convaincre quelqu'un de péché? Est-ce que vous avez déjà essayé de convaincre quelqu'un de péché? D'ailleurs, c'est pas compliqué, il suffit de lui tendre la liste de tout ce qu'il a fait de mal et il pourra être que convaincu. Eh bien, Jésus ne s'y prend pas comme ça. Et il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Et voyez-vous, la référence de Jésus par rapport au péché, c'est pas tout le mal qu'on a pu faire, mais c'est notre position de foi vis-à-vis de Jésus. Vous allez dire, mais non, si. Le plus grand des péchés, c'est de ne pas croire. Est-ce que dans le Notre Père, Jésus a dit, quand vous priez, vous direz, pardonne-nous nos offenses. Et ne pas croire en Jésus, c'est offenser Dieu. Et c'est grave d'offenser Dieu. Quand on offense quelqu'un de grand, un dignitaire, c'est grave. Dieu est plus grand, c'est le roi des rois. Mais comment est-ce que je peux l'offenser? Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a fait un présent, il a fait un cadeau. Et si on ne veut pas de ce présent, on l'offense. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, de faire un cadeau à quelqu'un et dire « j'en veux pas de ton cadeau ». Ça ne fait pas plaisir. Mais c'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu a donné au monde entier, à tous, un présent. Et le plus grand des péchés, je ne sais pas si on peut dire le plus grand, parce qu'on ne va pas les quantifier comme ça, mais le moyen dont le Saint-Esprit s'y prend pour convaincre quelqu'un de péché, c'est pas de dire « regarde tout ce que tu as fait », parce que ça c'est la conséquence d'une chose, tu ne crois pas en Jésus. Mais celle est là la conviction, nous amener à croire en Jésus, Fils de Dieu, mort pour le péché du monde, afin qu'en croyant en lui, nous ayons la vie et la conviction de péché parce qu'il ne croit pas en moi. La prochaine fois, dimanche prochain, on verra la résurrection de Lazare et là, c'est comme un feu d'artifice, c'est quand même la résurrection, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Eh bien, ce soir, on était là comme dans un récapitulatif des cinq dernières leçons, peut-être les musiciens peuvent prendre place. Et dans ce récapitulatif, j'aimerais surtout pas ce soir, eh bien, qu'on soit là dans un cours sur la foi. Je sais pas comment ça marche ici, le permis de conduire. Mais en France, ça se fait en deux étapes. Il y a la théorie, on appelle ça le code de la route. Et après, il y a la pratique. Bon. Il y en a qui peuvent être très bons dans le code de la route, hein, mais quand vous les mettez au volant d'une voiture, ça devient très dangereux. Mais j'espère qu'on va pas ressembler à des théoriciens comme ça de la parole de Dieu et être des experts concernant les grandes pratiques de la foi. Vous savez, hein, il vaut mieux être comme cet homme qui va dire à ses pharisiens, vous êtes des experts Vous connaissez la parole, vous connaissez la Torah, vous connaissez les enseignements qui viennent d'en haut, vous connaissez Moïse. Mais en tout cas, moi, j'y voyais pas, et maintenant j'y vois. Vous connaissez, mais j'ai jamais entendu dire qu'il y a eu d'aveugles qui aient retrouvé la vue avec vous. C'est ce que cet homme leur dit, hein. Mais j'espère qu'on va pas ressembler aux disciples qui discutent avec les scribes. Qu'on va pas ressembler à ces pharisiens qui sont là à être sceptiques. Qu'on va pas être là juste dans des experts de la théorie de la foi. Et que ce soir, j'aimerais comme mettre au défi, on peut dire, Seigneur, je veux vivre la foi. Je veux, Seigneur, que ta parole la suscite la foi dans mon cœur et m'amène à grandir dans la foi. Et même s'il le faut, comme cette boue sous les yeux de cet aveugle, eh bien, à révéler le péché, la misère, et à prendre conscience que j'ai besoin d'aller au réservoir de Siloé, besoin d'aller vers Jésus afin d'être lavé, purifié, guéri. J'ai besoin, quelle que soit la situation, ne pas m'arrêter sur un pourquoi et à chercher une réponse. Pourquoi, Seigneur, tel drame? Mais j'ai besoin de voir différemment et de voir ta gloire, de chercher à voir ta gloire. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul va dire, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et qu'on puisse dire, Seigneur, la situation est dramatique, mais là, il y a certainement une bonne œuvre, une œuvre qui te glorifie. Je veux la voir et je veux la pratiquer et je veux rentrer dedans. Mettre en pratique toute sa parole, obéir à toute sa parole sans discuter, simplement, dans la simplicité de la foi, reconnaître que Jésus est le Maître, le Seigneur de toutes circonstances. Et en conclusion, comme cet homme, eh bien, pouvoir l'adorer, reconnaître qu'il est Dieu, il est tout-puissant, que tout est possible à Dieu. Et que notre foi soit pas une autre foi qui soit une foi qui soit centrée sur nous, mais qui cherche à voir la gloire de Dieu manifestée dans nos vies et dans nos circonstances. Alléluia. On va prier quelques instants. Alléluia. Seigneur, on est là ce soir devant toi encore. Et on veut pas simplement, Seigneur, écouter des discours sur la foi et dire oui, c'est vrai. Mais ce soir, Seigneur, être là simplement, mais avec honnêteté devant toi. En disant peut-être pardonne-nous nos offenses. Nous n'avons pas tout.